Les dossiers Construction 21, regard croisé sur le bâtiment et la ville durable.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau rendez-vous des dossiers de construction 21. Et c'est aux énergies renouvelables du bâtiment à la ville que nous allons nous intéresser aujourd'hui en compagnie de nos experts et invités. Les villes, vous le savez, représentent aujourd'hui 70% des émissions de gaz à effet de serre et sont en première ligne face au défi de la neutralité carbone. Pour atteindre cet objectif, les énergies renouvelables constituent donc aujourd'hui un atout essentiel. Et ces énergies renouvelables, il convient d'associer les énergies de récupération qui permettent d'aller vers des modes de consommation circulaire. L'ambition donc de notre dossier du jour est donc d'éclairer les enjeux et les modalités de mise en œuvre des énergies renouvelables et de récupération dans les zones urbaines et comprendre comment les intégrer dans le cadre des démarches de déploiement territorial et dans la ville intelligente. Nous aborderons aussi dans ce dossier les outils juridiques et numériques, les sources de production d'électricité, mais aussi les dispositifs technologiques innovants permettant de déployer les ENR à grande échelle. La rédaction en chef de ce dossier a été assurée par Efficacity et le cabinet d'avocats LLC et associés, représenté aujourd'hui par Michel Salem Sermanet. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Efficacity. Merci d'avoir accepté notre invitation. Justine Bain-Touvrez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate associée au sein du cabinet LLC et associée. Et Jean Laterras, qui a aussi participé justement à l'élaboration de ce dossier, qui est responsable des relations avec les acteurs académiques pour Efficacity, ne sera pas avec nous, mais il a fait aussi un gros travail. On est d'accord, Michel ?
Très gros travail.
Alors, avant d'aborder la première partie de notre dossier, Michel Salem Sermanet, est-ce que vous pouvez nous présenter Efficacity pour qu'on comprenne qui vous êtes ?
Tout à fait. Efficacity est l'Institut français de recherche et développement dédié à la transition énergétique des villes. Donc nous faisons essentiellement deux choses. D'une part, nous mettons au point de nouveaux outils numériques d'aide à la décision pour aider les acteurs dans l'élaboration de stratégies bas carbone à l'échelle des villes et dans la conception de quartiers bas carbone. Par ailleurs, nous accompagnons des solutions innovantes pour les expérimenter en conditions réelles.
Très bien. Et vous travaillez sur ce dossier depuis combien de temps avec toute l'équipe ?
Alors, sur ces questions, en particulier d'outils d'aide à la conception de quartiers bas carbone, depuis plus de 5 ans.
Bon, on va en tout cas rentrer un petit peu plus dans les détails, hein, des grandes lignes de ce dossier. Juste avant, Justine Bain-Touvrez, est-ce que vous pouvez nous présenter LLC et associés, s'il vous plaît ? Donc un cabinet d'avocats, hein, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, le cabinet LLC, c'est un groupe de sociétés d'avocats. On est répartis un peu partout sur le territoire. On a un maillage territorial qui donc, nous permet d'être au plus près de nos clients public notamment. Donc on accompagne avec l'ensemble des équipes à la fois les projets, les transformations, les innovations. Ça, c'est un peu l'ADN à la fois du cabinet qui représente l'ensemble des domaines d'expertise juridique. Spécifiquement sur les sujets énergétiques, donc avec moi je suis responsable du pôle affaires énergie.
Oui.
Et on accompagne donc les acteurs publics et les acteurs privés à toutes les étapes de développement de leurs projets, de la sécurisation foncière jusqu'à la contractualisation, structuration, financement des projets. Et donc on a, avec l'équipe, on a monté un certain nombre de projets de production d'énergie renouvelable, bien sûr, en permettant donc la création aussi de structures pour permettre aux acteurs du marché de se positionner sur le marché de l'énergie et aussi leur permettre de financer leur croissance.
Vous allez rester avec nous, hein. Alors vous n'allez pas participer autour de la première table ronde, mais vous participerez à la deuxième table ronde, si vous le voulez bien, on a plein de choses à vous demander. Mais juste avant, Michel, est-ce que cette thématique est une thématique primordiale à traiter aujourd'hui selon vous ?
Tout à fait. Elle est primordiale à la fois en France, en Europe et dans le reste du monde. L'objectif est de rester cohérent avec les grands objectifs qui ont été définis en 2015 hein, par l'accord de Paris, donc en dessous des 1,5 degrés ou 2 degrés. Pour ça, il y a un certain nombre de grandes actions à mener, en particulier au niveau des villes. Traditionnellement, on distingue trois types d'actions. La sobriété énergétique,
oui.
L'efficacité énergétique et le verdissement des moyens de production. Et donc c'est sur ce dernier point qu'il faut également mener l'effort, hein, pas que sur les deux premiers axes, mais également sur le verdissement de la production d'énergie. Et ça passe en particulier par la mobilisation des énergies renouvelables et de récupération.
Très bien.
Et on est en retard hein, par rapport à la trajectoire que nous nous sommes fixés pour atteindre les objectifs 2020, 2030, etc. Donc l'effort est à accélérer et à en particulier en France.
Très bien. On va justement commencer par aborder la première table ronde, si vous le voulez bien. On va traiter, en tout cas, du potentiel des énergies renouvelables en milieu urbain.
Les dossiers Construction 21, première table ronde.
Et pour cette première table ronde, Michel Salem-Sermana est avec nous. Nous avons également à distance Jean-Christophe Clément, directeur innovation de Dalkia Smart Building. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, très bien.
Merci d'être avec nous et d'avoir accepté justement de parler de ce dossier et de votre contribution. Nous allons évoquer le potentiel des énergies renouvelables en milieu urbain. Alors d'abord, avant toute chose, Jean-Christophe, est-ce que vous pouvez nous présenter Dalkia Smart Building ? Qu'est-ce que c'est ?
Donc c'est une entreprise qui conçoit, construit et garantit la performance d'ensembles énergétiques, dont urbains. Par exemple, on fait des écoquartiers. On construit toute une série d'énergies renouvelables. Hein. Il y en a plusieurs, souvent elles sont couplées. Et on en garantit la disponibilité, la performance dans le temps, sur plusieurs années.
Donc ça, vous allez donc aborder surtout le fait comment l'innovation numérique joue-t-elle un rôle essentiel dans le développement des énergies renouvelables. On est d'accord?
Oui, c'est exact. Oui, le numérique qui devient incontournable pour pouvoir intégrer toutes ces énergies renouvelables. D'autant plus les objets sont gros, d'autant il faut du numérique pour pouvoir gérer au mieux toutes ces énergies, ce stockage, etc.
Vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux comment ça fonctionne et de quelle façon est-ce que ça contribue de façon très active?
Je vais prendre un exemple très concret, par exemple le quartier de Nanterre-Cœur Université, oui. Qui est à Nanterre, dans le prolongement du Parvis de la Défense. On vient coupler 5 énergies renouvelables, de la géothermie, du solaire photovoltaïque, de la récupération d'eau sur la chaleur, de l'aérothermie et de la cogénération thermique et électrique. On vient les coupler au sein d'un pilote énergétique de quartier, avec 3 types de stockage. On vient stocker dans le sous-sol, dans des réservoirs d'eau chaude et des réservoirs d'eau froide. Et le numérique est indispensable, hein, et même obligatoire, pour pouvoir piloter, prédire toutes ces énergies, aussi bien sur leur production, leur stockage, mais aussi bien sur leur consommation, que l'on vient anticiper. On lit les patterns, les profils de consommation, et on vient anticiper tout le système énergétique du quartier grâce au pilote énergétique, qui est finalement un logiciel prédictif de pilotage numérique de l'énergie sur l'écoquartier.
Ça veut dire qu'il produit une partie de l'électricité, c'est ça ?
Oui, alors le logiciel ne le produit pas, mais pilote les sources de production.
Oui.
Pilote la cogénération, par exemple, qui produit de la chaleur et l'électricité qui est en toiture. Pilote la géothermie, qui vient chercher l'énergie sous-sol à 150 mètres sous-sol dans des pieux. Il y a 150 pieux qui ont la surface d'un terrain de foot, qui sont sous le quartier, sous la terre, bien sûr. Donc on vient récupérer la chaleur sous la terre, on vient récupérer, faire de la cogénération biomasse en toiture, on vient récupérer l'énergie de l'air. Pas de la mer, de l'air.
On l'aimerait bien.
Pas la mer à Nanterre.
C'est un peu loin. Oui.
Et on vient récupérer l'énergie des eaux usées, on vient stocker ces énergies dans des grands ballons. Il y en a un qui fait 15 mètres de haut sur 5 mètres de diamètre, qui fait 65 000 litres pour stocker la chaleur. On a plusieurs ballons qui viennent stocker du froid. Et du coup, on vient produire ces 5 énergies renouvelables localement, les stocker et donc anticiper la consommation, charger et décharger le stockage pour anticiper la consommation et livrer en temps réel le meilleur mix énergétique local pour garantir un taux d'énergie renouvelable, c'est contractuel. On a au minimum 60% d'énergie renouvelable qui sont fournies sur le quartier en temps réel. Pour garantir une facture, on a un coût de l'énergie qui est garanti au consommateur, étant donné que vu qu'on produit renouvelable et local, on maîtrise nos coûts sur tout ce qui vient du local. On ne dépend pas des marchés de l'énergie ou autre. Donc on vient garantir un coût de l'énergie sur toute la partie renouvelable et locale, bien sûr. Et on fait le complément sur les marchés, parce qu'on n'est pas totalement autonome. Et on vient garantir aussi une performance énergétique de l'ensemble du quartier grâce à un système numérique de pilotage et de visualisation, parce que tout ça, il faut le voir, le
bien
garantir
sûr.
Et aussi le proposer aux habitants du quartier, l'idée étant de pouvoir donner une conscience énergétique à des personnes qui habitent en leur donnant une maîtrise dans leur mix énergétique local.
Mais en matière de confort, ça représente quoi exactement pour les usagers ?
Alors, le confort, là, est, sur ce quartier, il est indépendant de nos installations, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on livre en pied d'immeuble une énergie qui est locale et renouvelable. Ensuite, le confort dépend de l'exploitant dans les verticales, dans les étages de l'immeuble. Et c'est lui qui décide du confort, s'il veut plus ou moins chaud ou froid. Donc on n'est pas sur ce projet directement sur le confort.
Michel Salem-Sermanet, qu'est-ce que vous pensez de ce projet déjà ? Est-ce que vous avez un regard, voire un avis là-dessus ?
Oui, c'est un projet assez précurseur pour plusieurs raisons. D'abord, On a la mobilisation de plusieurs sources d'énergie renouvelable et de récupération sur un même site. Et ensuite, on a cette idée de garantir la performance du système énergétique à l'échelle du quartier. Donc voilà, ce sont deux leviers importants, la mobilisation des énergies renouvelables et la garantie de performance pour aller dans le sens d'un verdissement du mix de production.
Mmh. Avant justement de donner la parole à Michel, est-ce que vous avez des choses à rajouter de votre côté, justement Jean-Christophe ?
Oui, alors un tout petit complément de ce qui vient d'être dit à Michel. En effet, une troisième première, qui est une première nationale que l'on a fait sur ce quartier, c'est qu'on vient coupler les énergies renouvelables thermiques avec les énergies renouvelables électriques. C'est le premier double smart grid de France, thermique et électrique. Comme l'avenir sera en partie au solaire, étant donné qu'il est de plus en plus accessible, là on a couvert les toits du quartier avec l'énergie solaire. Et on vient intégrer l'énergie électrique finalement dans le mix thermique, dans toutes les autres énergies qui sont plutôt de la chaleur et du froid. Donc ce couplage est une association d'énergie renouvelable avec un S assez unique en France, qui en fait le premier double smart grid de France.
Très bien. Vous restez avec nous, Jean-Christophe, si vous souhaitez intervenir évidemment sur ce que va nous dire Michel, vous n'hésitez pas, d'accord ? Avec vous, Michel, on va parler justement donc de ces enjeux des énergies renouvelables et de récupération en milieu urbain, comment changer d'échelle. Vous avez, comme je le rappelle, écrit cet édito en collaboration avec Jean Laterrasse d'Efficacité, Justine Bintouvresse, qui est avec nous, de LLC Associés. Est-ce que vous pouvez nous parler des grandes lignes, justement, de cet édito ?
Oui, donc la question qui est posée dans cet édito et dans ce dossier plus généralement, c'est quels sont les leviers pour réellement accélérer la mobilisation des énergies renouvelables et de récupération en milieu urbain en France. On connaît nos objectifs qui sont ambitieux, 23% en 2020, 33% et sans doute plus en 2030, puisqu'au niveau européen, on revoit à la hausse nos objectifs. Nous ne sommes pas aujourd'hui sur la bonne trajectoire pour atteindre ces objectifs. Alors déjà 2020, puisqu'on est plutôt à 19%, mais au-delà, bien sûr, il faudra vraiment changer de méthode. Mmh. Alors, pour moi, ce changement de méthode, il doit se faire à deux niveaux. D'abord, au niveau de la conception des projets. On l'a vu sur l'exemple de Nanterre, avec Jean-Christophe de Dalkia. Oui. On est dans des systèmes énergétiques qui sont différents de ce qu'on connaissait au cours des dernières années, qui sont finalement plus complexes. On mobilise des champs du possible qui sont beaucoup plus vastes. Sur un territoire donné, il y a de nombreux gisements d'énergie renouvelable ou de récupération que l'on peut mobiliser. Il y a de nombreuses façons de gérer l'énergie avec des réseaux qui s'articulent entre eux, puisqu'on a des réseaux de chaud, de froid, des réseaux électriques, donc avec également l'intérêt de mutualiser les besoins entre différents types de bâtiments, et puis le stockage. Donc tout ça est un système qui est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de possibilités, c'est une chance, mais la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est sur chaque quartier donné, de choisir la bonne stratégie énergétique et finalement d'optimiser ce champ des possibles. Le problème, c'est que les pratiques actuelles sont, assez artisanales, finalement. Autant on utilise des outils tout à fait avancés, des outils numériques avancés pour la conception détaillée, le dimensionnement des ouvrages, etc. Et évidemment pour l'exploitation, comme ça vient d'être indiqué par Dalkia, autant dans les phases amont d'études, on utilise encore des méthodes traditionnelles, alors que ce sont dans ces phases amont que se prennent toutes les grandes décisions. Et donc, ce sur quoi nous travaillons à Efficacity depuis des années, c'est de mettre au point des outils numériques de nouvelle génération pour aider à la conception des bons systèmes énergétiques à l'échelle des quartiers pour atteindre les objectifs bas carbone de ces quartiers.
Comment vous expliquez ce décalage, finalement, entre les outils numériques qu'on met en place qui sont très puissants et des méthodes qui, finalement, restent un peu obsolètes ?
Alors, je pense que ce décalage est lié au fait que le champ des possibles que j'indiquais tout à l'heure s'est nettement amplifié au cours des dernières années grâce à tout un tas d'innovations qui se sont accélérées. Et ça fait que, il y a 10 ans, quand on était sur un quartier, on savait à peu près ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, le champ des possibles, vous avez des innovations tous les jours. Donc, comment choisir, comment optimiser son projet, on ne peut plus le faire sans un outil qui analyse finalement des centaines, des milliers de scénarios, les compare et est une aide à la décision pour optimiser l'empreinte carbone du territoire.
Aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, selon vous, c'est quoi ?
Justement, il n'y a pas de...
Recette miracle, vous voulez dire. Non. Chaque quartier doit avoir...
Exactement, c'est la difficulté. C'est pour ça qu'il faut des outils, dont certains ont été développés par Efficacity, qui permettent de, finalement, faire ce que l'on sait faire à l'échelle du bâtiment, le faire à l'échelle du quartier. Qu'est-ce que l'on fait au niveau d'un bâtiment? Parce qu'on a à peu près les mêmes soucis à l'échelle du bâtiment. À la conception du bâtiment, on utilise des outils de simulation énergétique, d'une part, et des outils de calcul d'impact environnemental. Et donc, c'est ce que l'on a fait au niveau d'Efficacity, c'est-à-dire de mettre à disposition des acteurs une capacité à simuler le fonctionnement énergétique d'un quartier dans les phases amont d'études et également à calculer les impacts environnementaux complets, ce qu'on appelle en analyse de cycle de vie.
Il y a des exemples à suivre qui pour vous sont concrètement faisables, voire qui peuvent être en tout cas un exemple de réussite.
Oui, tout à fait. En matière d'utilisation d'outils numériques de nouvelle génération pour la conception de quartiers bas carbone, on peut citer l'exemple de Toulouse, le quartier de Toulouse-Matabio, Nicolas en parlera tout à l'heure.
Tout à fait.
Donc ça, c'est en termes de simulation numérique. Et puis sinon, il y a une dizaine de quartiers pilotes en France aujourd'hui qui utilisent avec notre appui des méthodes d'analyse de cycle de vie pour vraiment choisir en toute connaissance de cause.
Donc les solutions existent, il faut juste savoir...
Les solutions existent depuis peu, puisque ces outils ont été développés, en particulier avec le CSTB et avec l'ADEME, au cours des 5 dernières années, on avait ces outils à l'échelle du bâtiment, il fallait les développer à l'échelle du quartier, c'est une autre échelle, il a fallu investir beaucoup d'intelligence, de nombreux acteurs, publics, privés, y compris d'Alkea d'ailleurs, et ces outils sont opérationnels depuis un an, et donc les phases pilotes montrent tout l'intérêt de mettre plus d'intelligence, grâce à ces outils numériques d'aide à la décision, dans les phases amont d'études. Encore une fois, c'est là que l'on prend toutes les grandes décisions pour des investissements, quand on parle de réseaux de chaleur, qui sont des investissements très capitalistiques, et donc il ne faut pas se tromper.
Donc l'idée de ce dossier, c'est d'abord d'ouvrir des perspectives, mais aussi peut-être de changer les mentalités à ce niveau-là ?
Tout à fait. Oui. Là, on parle bien de changement de pratique au niveau des acteurs de terrain. C'est toujours difficile de changer, mais là, c'est nécessaire d'optimiser tous les projets si on veut atteindre les objectifs dont j'ai rappelé l'ambition tout à l'heure.
Très bien. Avant de conclure cette première table ronde, et ça passe vite, Jean-Christophe Clément, vous voulez rajouter quelque chose à ce que vient de nous dire justement Michel ?
Alors, je ne peux qu'appuyer Michel dans tout l'intérêt d'avoir un tel outil numérique pour anticiper. Parce que quand on construit un quartier, on le construit pour longtemps, comme l'a dit Michel, et on peut pas y revenir. Quand on n'a pas bien évalué les ressources du territoire, c'est des impacts qui ont 30-40 ans, et c'est tout ça en performance énergie renouvelable, en performance verte qui est perdu. Et c'est très important de le faire dès la conception, comme l'a dit Michel, et en analyse de cycle de vie, parce que le poids carbone de la construction, de tout ce qu'il faut pour construire, pour forer, pour construire les réseaux, pour construire les bâtiments, c'est typiquement le tiers, la moitié du poids carbone total sur 25 ans. Donc si on l'a mal évalué, on se trompe finalement sur la globalité du contenu carbone, on peut se tromper de beaucoup. Donc je ne peux qu'appuyer l'initiative d'Efficacity vraiment pour ces deux arguments que nous travaillons tous les jours.
Michel, je vous laisse conclure.
Oui, je terminerai par une bonne nouvelle. Des acteurs comme Dalkia et d'autres s'emparent aujourd'hui de ces outils, et ces outils sont des premières non seulement en France mais en Europe, donc ça veut dire que ça donne aussi un avantage concurrentiel à l'ingénierie française, aux opérateurs d'énergie français pour développer des projets en Europe et dans le monde avec ce type d'outils.
En tout cas, je rappelle à ceux qui nous écoutent que s'ils souhaitent approfondir cette question et même aller voir ce qui s'y passe, eh bien vous pouvez retrouver tous les articles et tous les éditos évidemment sur le site de Construction 21. Merci beaucoup Michel Salem Sermanet d'avoir été avec nous.
Merci.
Patron d'ailleurs d'Efficacity. Vous êtes où ? Vous êtes parisien là ? Le siège est parisien ?
Très proche de Paris, Paris-Est, à Marne-la-Vallée, sur la cité des Cars.
Merci beaucoup pour cette première table ronde. À tout de suite.
Les dossiers Construction 21, seconde table ronde.
Et pour cette seconde table ronde, nous allons aborder les leviers pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables en milieu urbain. Et pour évoquer justement cette partie du dossier, nous allons retrouver Justine Bain-Touvraise. Rebonjour Justine. Bonjour. Je rappelle que vous êtes avocate associée au sein du cabinet LLC et associée. Nous aurons également sur cette partie Nicolas Astier. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Ingénieur d'études et de recherche chez Efficacity. Et nous aurons également l'intervention de Mathieu Bahuot. Merci merci. Bonjour d'être avec nous, Mathieu. Vous êtes chef de projet innovation pour Poste Immo. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer avec vous, Justine. On va surtout se concentrer sur le juridique. Et vous avez justement nous parler de l'article que vous avez rédigé, qui s'intitule « Circuit court de l'énergie, mobiliser les instruments juridiques pour libérer la plus haute valeur environnementale des projets d'énergie renouvelable ». Et c'est un sujet vaste, n'est-ce pas ?
C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet, mais qui se recoupe très bien avec ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus seulement sur le développement des projets d'énergie renouvelable, mais vraiment un déploiement à plus grande échelle des projets ENR. Je pense que la preuve de la transition énergétique n'est plus débattue, elle n'est plus à faire, et aujourd'hui, on est vraiment dans un changement de paradigme pour faire que on puisse justement accélérer la mise en œuvre de ces projets, notamment évidemment pour répondre à nos enjeux réglementaires. Ça passe par plusieurs, évidemment, modalités, plusieurs outils juridiques. Oui. Ça passe d'abord par une systématisation, je pense, des démarches existantes. Ça, c'est important. Il faut simplifier les projets, il faut systématiser les modalités de mise en œuvre, les montages. Et là-dessus, je pense qu'on a fait un pas en avant sur aujourd'hui, on met moins de temps à concevoir un projet d'énergie renouvelable. Il faut passer un peu l'étape d'après. Il faut accélérer la mise en œuvre des projets. Et aujourd'hui, on a finalement un cadre innovant d'outils juridique à notre disposition, à la disposition à la fois des acteurs publics et des acteurs privés pour accélérer ces projets. Alors il y a plusieurs leviers qu'on a exposés dans l'article, mais je pense qu'il finalement a été très bien développé par l'ensemble des contributeurs du dossier. Ils sont de plusieurs ordres et je vais faire un recoupement avec ce qui a été écrit par plusieurs. D'abord, c'est la nécessité, bien entendu, de placer les territoires au centre du dispositif. Ça, c'est important. Il faut un engagement territorial fort. C'est la première brique du projet.
Et des acteurs concernés,
j'imagine. Bien sûr, où on a aujourd'hui, alors on a des nouvelles structures, des nouveaux véhicules sociaux qui vont permettre aux acteurs publics notamment de participer à l'investissement des projets sans être forcément majoritaires. On a la possibilité donc de dérisquer les projets, de faire face justement à cette exigence en fonds propres des projets ENR qui est très importante. On va venir associer les citoyens, les entreprises, les acteurs publics, leurs groupements. Donc ça, c'est un premier point. Il y a la FNCCR l'a très bien dit dans son article, c'est qu'on a des structures parapubliques aujourd'hui qui naissent pour justement accélérer la mise en œuvre des projets sur des échelles territoriales beaucoup plus importantes. Le deuxième point qui est important, c'est de toujours réfléchir à insérer son projet dans une boucle énergétique locale. Je pense qu'on ne peut plus penser seulement on réalise des installations photovoltaïques de manière éparse, isolée, sur des toitures, au sol ou des centrales éoliennes. Aujourd'hui, il faut penser boucle énergétique et on a aujourd'hui des formidables projets qui sont mis en œuvre, pas seulement d'une seule opération d'autoconsommation collective, c'est la possibilité d'autoconsommer son énergie avec plusieurs consommateurs. On a des opérations d'autoconsommation collective étendues, le syndicat Morbihan Énergie l'a mis en place. On a évidemment trouvé des outils pour faciliter la mise en œuvre, pour accélérer un petit peu tout ça, en mutualisant au travers d'une seule structure la mise en œuvre de 15 opérations d'autoconsommation collective. Donc aujourd'hui, on est sur des échelles départementales, donc on a fait quand même
un grand pas.
C'est ça. Et la troisième chose, c'est vraiment de fédérer l'investissement local et citoyen. On a un nouveau dispositif aujourd'hui juridique qui vient de nos directives européennes, que sont les communautés d'énergie renouvelable. Et ça, c'est la possibilité de dépasser le cadre de 2 km des opérations, de travailler sur des échelles territoriales beaucoup plus importantes. Donc on a évidemment aujourd'hui la volonté des acteurs publics de préfigurer tous leurs projets d'autoconsommation vers des communautés d'énergie. Pourquoi ? Parce que voilà, Jean-Christophe Clément d'Alka Smart Building l'a rappelé, c'est la possibilité d'intégrer tous les vecteurs énergétiques, de créer des boucles multi-énergie. C'est la possibilité aussi d'intégrer des véhicules de la mobilité électrique. Donc ça, il y a notamment les Enerplan, Texol qui ont travaillé sur ces dossiers-là. Et il y a vraiment des choses, des innovations juridiques et techniques qui sont très intéressantes. Et l'association des vecteurs énergétiques, je pense que c'est le futur énergétique. C'est comme ça qu'on doit évoluer sur des échelles des géographiques plus importantes. Il y a des choses très intéressantes qui ont été faites, et c'est notamment le projet D2Grid dont on a été lauréat avec Construction 21, oui. Greenflex, BRGM, le PA Paris-Saclay. C'est la possibilité justement aujourd'hui de pas seulement siloter les énergies, mais d'intégrer les réseaux de chaleur aux boucles énergétiques locales, d'autoconsommation collective, voilà, pour travailler sur les flexibilités, la résilience territoriale, c'est important. Voilà. Pour pas, parce que les outils juridiques, il y en a beaucoup, je pense qu'effectivement, il faut tendre vers cette approche beaucoup plus globale et locale pour travailler vraiment sur les circuits courts de l'énergie. Mais voilà, il faut encore lever les freins juridiques, les dépasser aussi à certains
moments. Est-ce que c'est pas surtout très français, ça ? Est-ce que dans d'autres pays européens, est-ce que ces choses-là ont été dépassées ?
Largement. Bon, nous, on a un code de l'énergie qui est très contraignant, parce qu'on a un monopole de la fourniture qui est encore récent. Mais on a effectivement ces particularités, ces spécificités en matière de fiscalité énergétique. Hein, elle est aussi incitative que contraignante, et parfois elle empêche certains acteurs de faire, tout simplement. Voilà, donc des freins juridiques à dépasser et des financements dédiés qui doivent être encore développés pour atteindre cet objectif d'accélération des projets. Ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, le marché n'est pas assez mature. Il faut accompagner les acteurs, il faut poursuivre les soutiens publics, les subventions, la fiscalité, jusqu'à la pleine maturation du marché qui arrive, parce que voilà, la technique a dépassé le juridique.
Ouais, donc une vraie prise de conscience nationale et
mais
surtout locale et nationale.
Du chemin reste à parcourir.
En tout cas, je voyais justement Nicolas et Mathieu justement être très attentifs à ce que vous disiez. Alors justement, Nicolas Stier, ingénieur d'études et de recherche chez Efficacity, quel est votre avis là-dessus déjà ?
Je suis tout à fait d'accord sur l'aspect technique. On commence à maîtriser beaucoup de choses sur les énergies thermiques, sur les énergies électriques, sur leur couplage en milieu urbain. Par contre, les enjeux juridiques, contractuels sont encore très importants. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à accélérer, à systématiser dans les futurs projets, en tout cas en France.
Alors avec vous, Nicolas, on va surtout évoquer l'intégration de la géothermie aux ouvrages, qui peut être une réponse aux contraintes fortes de la production, de ces engagements. Alors d'abord, vous allez nous parler surtout d'un projet local qui a fait ses preuves. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Alors oui, tout à fait. Donc le projet dont je vais vous parler, c'est un projet à Toulouse, autour de la gare de Toulouse-Matabiau. Oui. Donc en fait, c'est un grand projet d'aménagement qui inclut aussi un développement des transports dans la zone. Et dans le cadre de ce projet, Efficacity et Europolia, la société publique locale d'aménagement, ont travaillé sur l'élaboration des stratégies énergétiques pour approvisionner les bâtiments en énergie renouvelable. Alors on est sur une zone très urbanisée où on n'a pas forcément beaucoup de gisements d'énergie renouvelable, notamment thermique. Et dans ce cadre-là, en fait, on s'est penché sur la solution de la géothermie. La géothermie de faible profondeur, qui peut en fait, dans les solutions qu'on a envisagées dans l'étude, qui peut s'inclure dans les fondations directement des ouvrages. Donc on a différentes sortes de géothermie de faible profondeur. On a la géothermie sur paroi moulée, sur radier thermoactif, ou la géothermie sur sonde. Et donc on a étudié ces différentes possibilités. Leur avantage, en fait, c'est que justement en milieu urbain, si on les prévoit suffisamment en amont du développement du projet, on ne prend pas de place sur l'espace public. On est directement intégré dans les bâtiments pour répondre à leurs besoins. Et on peut connecter différentes sources géothermiques ensemble via une boucle locale thermique.
Les premiers travaux ont commencé quand ?
Les premiers travaux ont commencé en 2018. Oui. Donc là, c'est là qu'on a en fait étudié tous les gisements potentiels du quartier. Et les derniers travaux ont été sur cette question de la boucle thermique, sur comment les mettre ensemble, ces différents moyens de production. Et de mutualisation en fait d'énergie entre les bâtiments.
Et vous avez déjà un retour d'expérience ou c'est trop tôt pour en avoir ?
Alors c'est encore un peu tôt puisqu'on est dans les phases amont vraiment du projet. Mais ce qu'on a pu faire, c'est étudier un très grand nombre de scénarios. On est allé sur quasiment un millier de scénarios d'approvisionnement des bâtiments. Donc quel bâtiment on va mettre sur la boucle et comment on va les alimenter. Alors, en quelques mots, comment fonctionne la boucle, parce que c'est assez important de le savoir
pour comprendre
le contexte de mutualisation énergétique. En fait, on a une boucle d'eau qui va varier en température entre 10 et 40 degrés selon les moments de l'année et selon les rejets thermiques qu'on va avoir dessus.
Oui.
Et cette boucle d'eau, elle est connectée d'un côté au bâtiment, aux pompes à chaleur, qui vont en été réchauffer la boucle, parce que les bâtiments se climatisent, donc rejettent leur chaleur excédentaire sur la boucle. Et en hiver, on a l'inverse. En fait, ils vont se chauffer en prélevant de l'énergie sur la boucle. Et l'intérêt de la géothermie là-dedans, c'est qu'elle va nous permettre d'équilibrer la boucle sur une année. Et donc, on va pouvoir l'utiliser comme stockage intersaisonnier. Donc, l'été, on rejette de la chaleur sur la géothermie. L'hiver, on récupère cette chaleur pour chauffer les bâtiments. Et donc là-dessus, en fait, on a pu étudier des scénarios selon les bâtiments qu'on allait raccorder.
Oui.
Quelle est la meilleure performance qu'on pourra atteindre. Et donc, en fait, on a pu trier des centaines de scénarios comme ça et arriver à une sélection plus fine, donc, qui est la plus viable technico-économiquement. Mmh. Et donc, quand on dit plus viable, c'est sur les aspects environnementaux, énergétiques.
Et ça, c'est des projets qui, pour vous, doivent se démultiplier sur le territoire ? Ou pour l'instant, vous attendez d'abord un retour d'expérience concret de ce projet sur Toulouse ?
Alors, c'est des projets qui existent déjà dans une certaine mesure.
Oui.
Ce qui est important, c'est de bien les dimensionner sur les quartiers. Donc, il faut qu'ils soient adaptés. Enfin, on ne les met pas sur n'importe quel quartier.
Mmh. Comme disait Michel tout à l'heure, il faut que le quartier corresponde aussi à ce type d'attente.
Effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir en fait, avoir des... Si on a des besoins en froid et en chaud, simultanés, ou en tout cas... sur une même année, sur un même quartier. Mmh. Là, on a vraiment un intérêt à mettre ce genre de solution. Et donc, on a des exemples déjà qui existent. Et simplement, en fait, chacun des exemples est unique, dans le sens où, à chaque fois, on a des sources d'énergie différentes.
Oui.
Là, en l'occurrence, c'est surtout la géothermie. Mais on a parfois de la biomasse, du solaire thermique. Donc, on peut avoir beaucoup d'autres solutions. Et c'est ça qui fait que chaque projet est unique. Et donc, chaque projet demande quand même d'avoir une étude particulière, une attention particulière. Et on ne peut pas non plus systématiser la solution.
Bon, en tout cas, pour ceux qui veulent comprendre comment fonctionne au plus près cette boucle énergétique locale dont vous nous parlez depuis quelques minutes, vous pouvez évidemment aller voir sur le dossier énergie renouvelable sur Construction 21. Je crois que l'article est très complet. Je crois qu'on comprend mieux comment ça fonctionne.
Peut-être un point supplémentaire qui est quand même important à souligner dans l'intérêt de ces boucles thermiques et de cette géothermie, c'est qu'en fait, on lutte également contre les effets de chaleur urbaine, les îlots de chaleur urbains, pardon. Donc en fait, quand on a des climatiseurs, habituellement, on va rejeter la chaleur dans l'air ambiant autour des bâtiments. Et donc on va avoir des problèmes d'îlots de chaleur. Là, dans le cas de la géothermie, on peut rejeter cette chaleur dans le sous-sol et donc éviter complètement ce problème-là qui est de plus en plus prégnant en ville et en été. Donc c'est assez important de souligner aussi l'intérêt environnemental et pour le confort urbain qu'on peut avoir avec ces technologies.
Bon, on a bien compris que c'était un projet innovant, en tout cas,
oui,
qui allait, je l'espère, faire ses preuves dans quelques temps. Merci beaucoup Nicolas Astier, vous pouvez évidemment intervenir si vous le souhaitez. On va continuer avec vous Mathieu Bayot, chef de projet innovation pour Poste Immo. Vous nous présentez Poste Immo pour commencer ?
Oui, bien sûr. Donc Poste Immo, c'est la foncière du groupe La Poste, donc qui gère les immeubles du groupe La Poste et qui développe des projets en fonction des besoins aussi des entités de La Poste.
Oui.
Voilà, donc Poste Immo finalement a une action aussi forcément assez forte dans le sens
et responsable
exactement
sûr.
Dans le sens des engagements sur le chemin de la neutralité carbone là du coup qui sont développés par le groupe La Poste. Et donc voilà, Poste Immo agit notamment avec une politique immobilière durable qui repose sur 4 piliers, donc l'énergie que je vais représenter soir, le deuxième pôle climat, on a un pôle économie circulaire aussi et un pôle biodiversité. Voilà, pour vraiment englober tous les piliers de la neutralité carbone.
Très bien. Vous nous parlez des grandes lignes, justement, de cet édito.
Oui, les grandes lignes, finalement, c'était de démontrer que finalement, alors c'est souvent à une échelle un peu plus fine, l'échelle souvent des immeubles pour nous chez Poste Immo, mais d'étudier finalement que installer une centrale photovoltaïque sur une toiture en plein centre-ville, c'était possible.
Oui.
Que c'était, certes, il y avait quelques sujets à aborder, notamment le sujet des architectes des bâtiments de France, qui sur ce projet-là, sur le projet de Nantes par exemple, qui est décrit dans l'affiche, où on a eu quelques soucis. Enfin, voilà, on a réussi à les contourner, mais finalement on a réussi à faire le projet, donc c'est une bonne chose. Voilà, de démontrer aussi que économiquement, par exemple, c'était possible, que ça fédérait énormément les occupants de l'immeuble. Il y a aussi des communications dédiées, voilà, pour optimiser, déplacer les besoins énergétiques, enfin déplacer les usages électriques à des moments où il y avait de la production photovoltaïque, pour finalement gagner en autonomie énergétique à une échelle d'un immeuble. Donc là, on est sur un immeuble tertiaire, l'hôtel des Postes de Nantes, où voilà, on a on aurait aimé en mettre plus, mais finalement on a mis au maximum de photovoltaïque sur la toiture qui était en rénovation. Et voilà, après, c'est vrai que le sujet, on a très peu de surplus, parce que, de surplus de production, parce qu'on autoconsomme presque tout avec les usages de l'immeuble, qui sont tertiaires et logistiques, parce qu'il y a une plateforme aussi de tri qui alimente aussi les véhicules électriques au sous-sol de cet immeuble notamment. Donc on a un lien avec le véhicule électrique, etc. Après, on a eu du mal à sortir de l'immeuble parce que, enfin, en termes énergétiques, je voulais dire, parce que on a eu du mal à partager le surplus parce qu'on en a très très peu. Et c'est vrai qu'à l'époque où le projet a été développé en 2018, c'était encore complexe aussi le schéma juridique sur autoconsommation collective, essayer de voir si les besoins de moins de nos voisins étaient compatibles. Mais finalement, pour les volumes et ce qu'il y avait en jeu, on n'a pas eu beaucoup de répondants. Mais voilà, surtout ce qu'on a voulu démontrer, hein, c'est que aussi à l'échelle d'un immeuble, c'était rentable le photovoltaïque en autoconsommation, c'est-à-dire qu'on arrive à proposer des kilowattheures qui sont moins chères que ce qu'on achète sur le réseau, qu'on rend un nouveau service énergétique aussi à nos occupants. Pas mal de points positifs finalement sur cette expérience.
Alors justement, est-ce que les acteurs de l'immobilier ou les acteurs du bâtiment sont conscients qu'investir finalement dans des énergies renouvelables, est-ce que ça leur permet de valoriser leur patrimoine? Est-ce qu'ils en sont conscients ou pas?
Alors il y en a de plus en plus, c'est assez évident. Après, ça va peut-être dépendre aussi du modèle justement économique et juridique. En effet, est-ce qu'on revend la totalité de l'électricité et à qui? Et est-ce qu'on fait de... C'est vrai que nous, Postimo, nous avons pris le parti pris d'aller plutôt vers l'autoconsommation et l'autoconsommation collective éventuellement. Mais c'est vrai que sur l'autoconsommation, rien que dans le cadre du décret tertiaire, on arrive finalement à réduire nos besoins en électricité venant du réseau. Et donc, voilà, ça fait aussi partie des choses qui sont valorisables. Et puis, au-delà de ça, c'est vrai que nos centrales photovoltaïques, finalement, font l'objet de mises à disposition à nos occupants, hein, pour qu'ils deviennent eux-mêmes producteurs d'électricité et autoconsommés. Donc, ça nous permet de générer, des redevances annuelles qui nous permettent, finalement, d'ajouter des revenus complémentaires à l'immeuble et donc d'avoir une rentabilité unique à la centrale photovoltaïque.
Très bien. Justine, vous voulez intervenir ?
Non, je trouve que c'est un modèle très intéressant de tout, finalement, propriétaire public ou privé d'un patrimoine, pouvant valoriser ce patrimoine-là en réduisant bien sûr la facture énergétique, répondre aux enjeux réglementaires, et ensuite de dire effectivement que l'autoconsommation, c'est un effacement de sa consommation, on participe à la transition énergétique, et en plus de ça, on peut bénéficier finalement des revenus de ces projets-là, et devenir consommateur, consommateur, hein, c'est vraiment les nouvelles notions un peu à la mode, mais finalement, c'est à la portée de tout le monde. On peut tous être producteurs.
Mais vous, au sein de votre cabinet, Justine, est-ce qu'il vous arrive d'être un peu conseiller, porteur de conseils de ce type d'investissement au sein de votre cabinet ou pas?
Oui, tout à fait. Ouais. Nous, on assiste beaucoup d'opérateurs immobiliers, promoteurs, constructeurs, tout propriétaire aussi public. Hein. Il y avait notamment les départements dans ce type de montage-là. On les accompagne sur évidemment tout le financement aussi, sur la structuration du projet. Et aujourd'hui, on a des modèles d'affaires qui sont véritablement intéressants.
Donc voilà. Les acteurs se posent vraiment la question. Ça devient une question primordiale dans la mise en place du projet. Nicolas, vous voulez intervenir? On arrive pratiquement à la fin de cette table ronde.
Oui, alors sur les sujets d'autoconsommation collective qui sont très intéressants sur l'électrique, on commence à avoir aussi des projets de couplage, donc c'est ce qui avait été évoqué un peu plus tôt là, dans la précédente table ronde. On pourrait en fait faire de l'autoconsommation collective sur des pompes à chaleur dans le bâtiment pour valoriser directement dans le bâtiment cette énergie en énergie thermique et donc avoir un gain direct sur les consommations aussi de chauffage. Donc c'est aussi des choses qu'on étudie dans le cadre des projets d'aménagement maintenant.
Très bien. Mathieu, je vous laisse conclure.
Le chemin est encore long parce qu'on voit qu'on expérimente et à chaque fois on arrive à trouver, comme vient de décrire Nicolas, on va avoir des, finalement des actions qui pourraient alimenter une pompe à chaleur. C'était pas forcément évident.
En fait, il y a de belles idées, mais il faut les organiser.
Exactement.
C'est ça, en fait.
Exactement. Faut, tout en gardant à l'esprit qu'il faut quand même que ce soit rentable. L'échelle territoriale, en plus, en parlant de la Poste, c'est quand même un bon représentant du territoire, aussi travaille dans ce sens-là. Hein. C'est vrai que les communautés d'énergie renouvelable, nous, on y réfléchit. L'autoconsommation collective restreinte et étendue, on y réfléchit aussi. Donc voilà, il y a encore de belles choses à faire, en tout cas, le chemin est encore long, n'est-ce pas?
Ouais, merci en tout cas à vous trois d'avoir participé à cette seconde table ronde. Justine Bintouvrez, avocate associée au sein du cabinet LLC et associée, merci d'avoir été avec nous. Nicolas Astier, ingénieur d'études et de recherche chez Efficacity, et Mathieu Bahuo, chef de projet innovation pour Poste Immo. Merci à vous trois et merci surtout à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau dossier où nous avons évoqué les énergies renouvelables, un dossier dans sa globalité à retrouver sur le site de Construction 21, évidemment. On vous se retrouve très vite sur Radio Immo.
Les dossiers Construction 21, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.immo et sur toutes les plateformes de streaming.